Bonjour, chers amis. Nous avons vu la dernière fois que la laïcité supposait plusieurs conditions au niveau de la société concernée. La présence d'une ou de plusieurs églises ou religions, un État et une conception de cet État qui soit différente de la pensée établie par les religions ou les églises et qui conduisent à la séparation des églises et de l'État. Commençons par essayer d'appliquer ces principes à des systèmes qui ne sont pas les nôtres. Dans le monde grec de l'Antiquité, il n'y a pas d'État. Chaque cité a ses dieux, mais l'organisation de la société se fait selon des lois humaines. Et comme la religion grecque n'a ni dogme ni morale, l'organisation de la société ne peut être considérée comme laïque. Elle est la simple expression d'un degré avancé de conscience et de civilisation que d'autres époques aimeront à reprendre pour modèle. À l'époque où naît l'islam, la société arabe est d'organisation tribale, également sans État. Et comme l'islam est une religion sans Église, la séparation de l'Église et de l'État n'a aucune signification dans l'islam, ce qui explique la difficulté des musulmans d'aujourd'hui, non seulement à comprendre notre laïcité, mais à la vivre. L'Oumma est la communauté des musulmans unis par des liens affectifs, de foi et aussi de droit, avec la charia, la loi. Il ne peut donc y avoir de sécularisation de la société. Dans les pays islamiques, ou bien l'autorité politique reçoit une fonction religieuse qui la légitime, ou bien elle est placée sous le contrôle de la hiérarchie religieuse, comme en Iran par exemple. Et l'islam n'a pas non plus l'expérience de la pluralité des religions. Dernier exemple, dans la société russe de la période soviétique, il y a un État fort qui interdit ou subordonne les églises. Un tel État assure à la fois la doctrine, la politique et toute la vie sociale. Il n'a donc pas besoin de laïcité et, aux yeux des observateurs, il est considéré comme totalitaire. Essayons maintenant d'appliquer le même schéma à l'Occident et à la France. Dans le monde latin de l'Antiquité, le droit romain distingue bien la chose privée et la chose publique, la res publica, d'où viendra le mot de république. Mais la sacralisation du chef politique et la déification de César ont pour effet de mélanger le civisme et l'obéissance inconditionnelle à l'empereur. C'est ainsi qu'au temps du Christ et des premiers siècles de l'Église, il y a un État fort, l'Empire romain, au sein duquel les religions sont ou bien soumises, comme le judaïsme, ou bien persécutées, comme le christianisme. Une telle société ne remplit donc pas les conditions nécessaires à l'éclosion de la laïcité. Ou alors, les premiers laïcs seraient les disciples du Christ, auxquels le Maître avait enjoint de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire le pouvoir légitime, mais aussi de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, y compris par César lui-même, désacralisé. Nous savons que les premiers chrétiens ont suivi cette consigne de Jésus jusqu'à être en infraction par rapport aux lois de l'Empire, dont la sanction pouvait aller jusqu'au martyre. Ensuite, dans la chrétienté médiévale, l'Église constitue une institution stable face à des pouvoirs temporels souvent fragiles. Lorsqu'il existe des pouvoirs forts, l'empereur d'Orient par exemple, Charlemagne, Charles Martel, Philippe le Bel, ou l'empereur du Saint-Empire en Occident, cela débouche sur plusieurs formes de relations entre ces pouvoirs et le gouvernement central de l'Église. Théocratie ou césaropapisme en Orient, alliance du trône et de l'autel en Occident, mais aussi gallicanisme, comme autant de filles plus belles en France. C'est néanmoins la chrétienté qui anime toute la vie intellectuelle et religieuse de la société. C'est véritablement à partir de la Renaissance que se développe un idéal laïque dans notre pays. Parce qu'à la fois se constitue un État moderne, alors que les autres pays européens attendront le XIXe siècle pour avoir des États qu'on leur connaît aujourd'hui. Et c'est aussi à ce moment que naissent des courants de pensée en réaction contre l'Église et le principe de catholicité. Dès la fin du XVe, par exemple, ceux qu'on appelle les humanistes se détournent de la philosophie officielle de l'Église pour renouer avec les anciens, grecs et latins, dont les valeurs sont différentes. Et cela se fait avec l'appui des rois de France, qui, tout en reconstituant un État français, se font protecteurs des arts et des lettres. Et au siècle suivant, notre Descartes national sera le promoteur de l'esprit critique, un produit bien français. Au XVIe siècle, la réforme protestante se détourne du culte et de la théologie catholique et prend appui sur des forces politiques, ce qui, dans notre pays, conduit aux guerres de religion qui se soldent par l'édit de Nantes, consacrant officiellement la cassure de la catholicité et la renaissance du protestantisme, jusqu'à sa révocation en 1685 par l'édit de Fontainebleau, lui-même assoupli par l'édit de tolérance de Louis XVI en 1787. Enfin, au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, souvent opposée à toute révélation et à tout dogme révélé, se détourne non seulement de la philosophie et de la théologie catholique, mais pour certains de la religion, au point de se déclarer athée. C'est tout cet héritage, humaniste, protestant et des Lumières, que récupère la Révolution française de 1789 et qu'elle va mettre en œuvre. Les bourgeois qui prennent le pouvoir politique au clergé et à la noblesse procèdent assez vite à diverses opérations de laïcisation de la vie publique. Et ceci dans un cadre juridique nouveau, qui est celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Désormais, ce n'est plus l'Église et son principe de catholicité qui régleront l'organisation de la société française, mais la nation, représentée par ses citoyens élus et selon des lois votées par eux. La Révolution va prendre alors une série de dispositions par rapport aux religions. Tout d'abord, elle met un terme aux discriminations liées à la religion. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, précise l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par ces dispositions, est donc reconnue et accordée la liberté religieuse aux minorités protestantes et juives, mais cette ouverture de liberté est clairement dans son intention contre l'Église catholique. La preuve en est dans les autres mesures prises, qui sont toutes à l'encontre de la seule Église catholique. Les biens du clergé sont mis à la disposition de la nation, puis les vœux de religion sont supprimés, mais pas les religieux. Ensuite, l'Assemblée constituante vote la constitution civile du clergé. L'état civil que François Ier avait confié à l'Église catholique lui est retiré pour être confié aux communes, ce qui fait que peuvent avoir lieu des naissances sans baptême, des mariages civils, des divorces et des enterrements civils. Et enfin, l'Assemblée législative adopte le principe de l'instruction publique et la liberté de l'enseignement sera inscrite dans la constitution du directoire. Il est important de rappeler ces quelques faits pour montrer que, dès sa première mise en œuvre, notre laïcité à la française porte d'abord sur la sécularisation de la vie publique, sur un projet d'organisation de l'instruction publique, sur une réglementation nationale du clergé et des religieux, et sur une nationalisation de ses biens, que l'Église de France vivra comme une première spoliation. Il faut attendre un décret du 23 février 1795, rédigé par Boissy d'Anglas, pour voir apparaître l'esquisse d'une séparation des Églises et de l'État, avec ces termes « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. Et enfin, la République n'en salarie aucun. » Nous verrons la prochaine fois comment va évoluer, pendant le siècle qui suit la Révolution française, ce mouvement d'émancipation laïque en marche vers la séparation des Églises et de l'État.